Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h43 et France Culture célèbre aujourd'hui la Nuit des Idées. Nuit des Idées organisée partout dans le monde, dans les instituts français, avec une idée extrêmement populaire, l'intelligence artificielle. On en parle dans les matins en votre compagnie, Antonio Casilli. Bonjour, vous êtes sociologue, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech et vous publiez un ouvrage important intitulé En attendant les robots, enquête sur le travail du clic aux éditions du Seuil. Si je prends par exemple deux magazines au hasard, Le Point, le magazine L'Express, eh bien dans ces deux magazines, il y a pour L'Express une couverture sur les machines vont-elles gagner, intelligence artificielle, travail, démocratie, ce qui va changer. Et puis Le Point nous propose un voyage au travers de l'intelligence artificielle en compagnie de Gaspard Koenig. Tout le monde s'y met et j'ai même trouvé dans Le Parisien un titre, intelligence artificielle, le plan de Jean-François Copé pour revenir dans la course. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très général, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie au fait ce terme, Antonio Casilli ?
Alors, évidemment, c'est un buzzword aujourd'hui qui est très très utilisé.
Un mot valise
qui est en même temps quelque chose qui désigne autant un processus de robotisation dans nos industries, mais même dans nos foyers. Hein. Vous pensez par exemple aux enceintes connectées. Les enceintes connectées sont basées sur des intelligences artificielles qui sont en gros les systèmes d'exploitation. Mais même dans nos propres poches, les smartphones que chacun d'entre nous utilise hein, sont aussi régis par des intelligences artificielles sous forme d'assistants virtuels. Là, je pense par exemple à Siri, à Cortana, hein, voilà, pour en citer certaines. Grosso modo, ces solutions intelligentes sont basées sur une méthode qui est devenue de plus en plus, disons, omniprésente, qui est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine. Donc, nos logiciels sont capables d'apprendre. Mmh. Nos algorithmes s'améliorent au fil de nos usages. Et donc, pensez par exemple à ce qu'on promet à chaque fois qu'on utilise, que sais-je, un moteur de recommandation ou de recherche. Google, par exemple, s'améliore au fil de nos recherches. Donc tout ceci est basé sur cette idée de développer des machines intelligentes. Or, évidemment, il y a un décalage entre ce que les machines font et ce que les machines promettent. Parce que si on regarde même tout simplement l'iconographie choisie par les magazines que vous avez cités...
Ça fait un peu peur. L'Express machine qui dévore un être humain.
Oui, en même temps, ils ont aussi toujours ce renvoi à cette iconographie d'un espèce d'avatar bleu, éthéré.
C'est vrai.
Alors, on est vraiment loin de ça. C'est des machines qui sont beaucoup plus humbles et qui surtout renvoient à ce qu'on appelle non pas l'intelligence artificielle générale, mais une intelligence artificielle faible. C'est celle qui est aujourd'hui marchandée, monnayée par les différents investisseurs et grandes entreprises.
Alors, qu'est-ce que vous appelez une intelligence artificielle faible ? Par exemple, quand vous faites des achats sur un site internet, bien souvent, vous avez des propositions. On vous dit, voilà, tel objet pourrait vous intéresser. Ça, c'est une intelligence artificielle faible ?
Tout ce qui relève de la recommandation, tout ce qui relève de l'aide à la décision, tout ce qui relève de la prévision du comportement des êtres humains peut être inscrit, englobé dans la catégorie de l'intelligence artificielle faible. Après, je dis faible, et on la définit comme ça en tant que faible, parce que c'est une intelligence artificielle qui n'est pas complètement autonome. Elle ne peut pas exister si elle n'est pas à son tour assistée par des êtres humains.
Alors ça, c'est ce que l'on découvre dans votre livre, en tout cas moi, ce que j'ai découvert. Vous expliquez, Antonio Casilli, que ces recommandations qui sont faites sur quasiment tous les sites internet ne sont pas seulement proposées par des algorithmes, mais sont proposées tout simplement par des êtres humains qui sont en quelque sorte les soutiers de l'économie internet. Expliquez-nous, Antonio Casilli.
Pour être plus précis, l'argument de ce livre, donc le titre est « En attendant les robots », donc la renvoie clairement à un imaginaire beckettien. On attend les robots qui n'arrivent jamais, parce que entre-temps, ce qu'on voit arriver, c'est plutôt une armée de personnes qui produisent, calibrent, améliorent ces robots. Et donc c'est ça, grosso modo, le point central sur lequel je m'attarde. Les personnes qui entraînent, dressent ces robots sont souvent encadrées d'un point de vue contractuel, non pas sous forme d'un emploi formel, mais elles sont recrutées sur des plateformes spécialisées. utilisée, parmi d'autres, Amazon Mechanical Turk, qui est peut-être la plus célèbre de ces plateformes.
Alors ça, il faut rappeler ce que ça signifie, puisque on peut très bien avoir dans un site internet qui vous propose, c'est ce que vous évoquez hein, comme exemple, Antonio Casilli, on peut très bien avoir dans un site qui vous propose des réductions ou des soldes de luxe sur internet, on peut très bien avoir une personne située généralement dans un pays où les salaires sont faibles, qui va faire ses choix, et donc cette fameuse technologie de l'intelligence artificielle qui est monnayée auprès des investisseurs, parce qu'il ne faut pas oublier que tout cela est généralement destiné à faire gagner de l'argent à des actionnaires qui investissent dans des start-up, la fameuse Start-up Nation, et bien derrière, il y a tout simplement des êtres humains sous-payés.
Tout à fait. Des êtres humains sous-payés, donc payés à la hauteur de quelques centimes, voire moins pour chacune des micro-tâches qu'ils réalisent. Ça veut dire quoi une micro-tâche? Bah, par exemple, ils reçoivent une dizaine d'images et ils doivent labelliser ces images, préciser si dans ces images il y a des animaux ou des arbres. Et cela peut être utilisé, que sais-je, pour entraîner un véhicule autonome, donc un robot d'un type particulier. Ou alors parfois ils reçoivent des morceaux, des petits fichiers audio et ils doivent retranscrire cela et donc ce type de micro-tâche peut servir pour entraîner des enceintes connectées.
Alors, ça c'est une mauvaise découverte puisque on découvre finalement qu'il y a des individus sous-payés dans ce qui est présenté comme étant une technologie extrêmement avancée. La bonne nouvelle, c'est que si l'intelligence artificielle nous fait peur et si par exemple l'Express aujourd'hui fait sa couverture comme ceci avec l'intelligence artificielle, c'est parce que celle-ci est supposée détruire des emplois. Qu'en pensez-vous, Antonio Casilli ?
Eh ben, je m'efforce de montrer que cette crainte n'est pas fondée. Une étude célèbre produite par deux chercheurs de Oxford, donc s'appelle Frey et Osborne, et donc cette étude publiée en 2013, annonçait que à l'horizon 2030, un pays comme les États-Unis allait perdre 47% de ses emplois.
Et ce donc, qui fait beaucoup.
Oui, ce qui fait, c'est énorme, évidemment. Et donc il y a pas donc plusieurs chercheurs qui se sont efforcés de montrer que d'un point de vue méthodologique et même d'un point de vue substantif, donc cette prophétie n'avait pas raison d'être. En réalité, on fait face plutôt à une pression sur l'encadrement formel de l'emploi de la part des investisseurs qui sont derrière les intelligences artificielles et qui, d'une certaine manière, cherchent à se déresponsabiliser en disant « c'est la machine qui veut ça, c'est le progrès qui veut ça ». Et ça, c'est, si vous voulez, une stratégie qui est utilisée depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Or, la question revient au fait que ces machines ne peuvent pas se débarrasser du travail humain parce que plus vous en injecter de machines sur le marché, donc plus vous injectez, que sais-je, de solutions intelligentes sur le marché, plus vous avez besoin d'êtres humains qui encadrent, accompagnent, valident et parfois dressent ces mêmes machines.
Mais alors, je vais vous poser la question brutalement. Est-ce que ça signifie que l'idée d'intelligence artificielle, c'est une idée qui a un intérêt marketing, mais qui, en réalité, ne recouvre aucune réalité véritable?
Alors, elle recouvre une réalité tout à fait relative, dans la mesure où, quand on parle en 2019 d'intelligence artificielle, on est en train de reprendre ou alors de reproposer sur le marché exactement les mêmes solutions qu'on proposait il y a 10 ans sous forme de big data. On les appelait comme ça. Donc, d'un certain point de vue, c'est tout simplement un mot d'ordre qui a changé. Après, évidemment, la question est que ces solutions intelligentes ne sont pas si intelligentes que ça. Et en plus, j'ajoute, c'est pas vraiment la partie de l'intelligence qui fait défaut dans l'expression intelligence artificielle, mais mon effort dans le livre, c'est de montrer que ces machines ne sont pas si artificielles que ça. Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, par exemple, en 2005, avant de lancer sa plateforme Amazon Mechanical Turk, avait dit, on va faire sur cette plateforme de la artificial intelligence, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle fausse. Et de ce point de vue-là...
Parce que le Turc mécanique, il faut rappeler ce qu'est ce Turc mécanique, Antonio Casilli.
C'était un canular. C'était un canular inventé à la moitié du 18e siècle par un inventeur de génie qui était donc un robot déguisé en turc ottomane, joueur d'échecs. Et donc ce robot devait challenger et battre des adversaires humains. Et en tant que tel, il était censé être la première intelligence artificielle parce qu'il devait simuler le comportement et les processus cognitifs de ses adversaires. Mais la réalité est qu'à l'intérieur de ce robot se cachait un être humain. Comme aujourd'hui, à l'intérieur des intelligences artificielles, se cache non pas un seul être humain joueur d'échecs, mais des centaines de milliers, voire des centaines de millions de personnes qui, partout dans le monde, depuis l'Indonésie, depuis le Pakistan, depuis des pays francophones aussi, Madagascar, Tunisie, se connectent à des plateformes et, grosso modo, injectent du travail humain dedans.
Mais alors, il y a en ce moment un homme qui vend énormément de livres à la surface du monde entier, puisqu'il est question de Nuit des idées, une nuit mondiale. Il faut parler de Yuval Noah Harari. Il a été présenté dans Le Point comme étant le penseur le plus important au monde et il a notamment publié un ouvrage intitulé Homo Deus, où il explique que l'intelligence artificielle va tout bouleverser, qu'elle va supprimer une bonne partie des emplois que nous connaissons et que nous, humains, on a intérêt à se dépêcher si on ne veut pas être dévoré par les machines, ce qui est donc cette iconographie qui est présente sur la couverture de l'Express. Est-ce que ce type de scénarios sont des scénarios qui, comme la plupart des scénarios de prévision du futur, sont déjà démentis, Antonio Casilli?
Vous voyez, moi j'ai tendance à adopter une attitude qui est beaucoup plus humble, beaucoup moins, si l'on veut, humaniste au sens grandiose du terme. De mon point de vue, qui est un point de vue de sociologue, moi je regarde la réalité de terrain, et la réalité de terrain est que ces machines sont moins dangereuses, mais en même temps sont aussi porteuses d'une certaine idéologie qui, elle, est dangereuse. Alors de ce point de vue-là, le fait de proposer ou d'insister, comme le fait Yuval Noah Harari sur la possibilité ou alors la nécessité des êtres humains de s'ériger à un niveau presque de homme divin, est quelque chose qui m'inquiète à la limite parce que c'est une vision qui insiste beaucoup sur le côté sublime de l'être humain, alors que à mon sens il faut vraiment insister, il faut vraiment souligner le côté simple, presque banal de l'existence humaine qui est faite dans le contexte actuel, hélas, d'activités qui sont beaucoup moins des activités intellectuelles et beaucoup plus des activités physiques, cliquées. Le travail du clic, c'est ça qui nourrit l'intelligence artificielle actuelle et c'est ça, malheureusement, qui est le problème et la solution possible à l'état des choses actuelles.
En tout cas, l'actualité vous donne raison, Antonio Casilli, puisque j'ai lu dans le New York Times que l'idée selon laquelle il y aurait des voitures volantes autonomes, ce qui fait déjà trois niveaux de représentation complexe, une voiture volante autonome, c'est notamment une idée qui est promue par Uber, parce que derrière tout cela, il y a des logiques de capitalisation boursière, l'idée étant de vendre, non pas tellement un produit, mais de vendre une entreprise, et Uber a besoin d'avoir la confiance des banques et des investisseurs, et donc cette idée était aujourd'hui une idée qui paraissait complètement irréaliste, et que dans le même temps, même la voiture autonome qui a été présentée comme étant à l'horizon 2020-2021, bref, dans un avenir très proche, paraissait aujourd'hui finalement devoir être remise en cause. C'est quelque chose qui ne vous surprend pas, j'imagine.
Pas du tout. Toute la partie centrale de cet ouvrage, En attendant les robots, est consacrée justement à démystifier justement le discours marketing de Uber, en montrant que quand Uber propose par exemple du véhicule autonome, en réalité, il propose la mise au travail de ses chauffeurs, mais aussi de ses passagers qui produisent de la donnée pour, que sais-je, améliorer les GPS, mais aussi améliorer des systèmes de vision, et que ces véhicules autonomes, même dans les versions qui existent aujourd'hui, ne sont pas si autonomes que ça, ne sont pas sans chauffeur. Comme on l'a démontré en mars 2018, quand il y a eu le premier accident mortel en Arizona impliquant un véhicule de Uber, à l'intérieur du véhicule, il y avait une personne. Il y avait quelqu'un qui était au volant, donc, sauf qu'il conduisait via un écran. par écran interposé. Et cette personne, on l'appelle plus un chauffeur, c'est tout simplement un problème de sémantique du point de vue de Uber. On l'appelle un opérateur de conduite. Mais cette personne-là, qui est censée empêcher les accidents, est quelqu'un d'inéliminable. On ne peut pas s'en passer.
Mais alors, dans le même temps, aujourd'hui, Uber, qui finalement propose un service qui renvoie au service traditionnel de taxi, puisqu'on a un chauffeur et les voitures utilisées sont des voitures traditionnelles, développe, c'est ce que vous expliquez Antonio Casilli, chez les chauffeurs, des compétences différentes, lesquelles ?
Tout à fait. Des compétences de producteurs de données, parce que ce que je propose comme idée, comme hypothèse, est que Uber ne soit pas une entreprise de transport urbain. Au contraire, elle soit une entreprise qui gère et produit et traite des données. Les données produites par chacun d'entre nous quand nous nous connectons à cette application qui marche très bien, pour être franc, et qui en même temps est très efficace, c'est-à-dire qu'elle capte nos données, même quand nous l'éteignons. Par exemple, les passagers sont tracés et leurs données sont monétisées, attention, pas vendues, monétisées, c'est-à-dire qu'ils arrivent effectivement à faire des flux de comptants grâce à ça. Et après, ensuite, ces données sont même utilisées pour, par exemple, préparer des algorithmes d'amélioration du trafic urbain, donc sont peut-être monétisées via les municipalités qui les achètent ou qui passent par ces données-là, et aussi pour améliorer la performance des véhicules autonomes, qui, grâce à ça, évitent de foncer dans des arbres ou arrivent à reconnaître la bonne route à prendre en cas de trafic, en cas de blocage, ainsi de suite.
Mais alors, justement, parce que donc vous dénoncez l'intelligence artificielle en disant finalement, c'est un terme qui ne recouvre pas de réalité. Est-ce que le big data, donc l'idée qu'avec des données, on va faire des choses miraculeuses, une idée qui finalement ne peut pas aller sans intelligence artificielle, parce que quand il y a beaucoup de données, un être humain n'a pas la capacité de les étudier, est-ce que c'est pas aussi une autre idée à remettre en cause, Antonio Casilli?
Et de plus en plus de personnes la remettent en cause. Remettent en cause même les présupposés, si l'on veut, statistiques de l'approche Big Data, qui consiste, si vous voulez, tout simplement à frotter suffisamment de données sur un phénomène en espérant voir émerger un pattern, une régularité statistique, et de dire par la suite, voilà, on va agir sur la base de ce qu'on a vu arriver. Or, d'autres mathématiciens, statisticiens, informaticiens, depuis des décennies, proposent des approches différentes. Des approches qui sont basées, au contraire, sur des modèles mathématiques et sur une forte théorie. Donc, effectivement, le big data marche relativement mal, de ce point de vue-là.
Alors, sinon, on vous suit, Antonio Casilli, l'intelligence artificielle est profondément artificielle, ce qui ne signifie pas que le mot ne recouvre pas des pratiques très nouvelles et très différentes dans le capitalisme. On va en parler dans une vingtaine de minutes, comment, finalement, cette idée façonne un nouveau capitalisme et une nouvelle démocratie. Votre livre, En attendant les robots, est publié aux éditions du Seuil et nous retrouverons dans une vingtaine de minutes une chercheuse, Marie Pelletier, qui, elle, a travaillé sur la manière dont Internet modifie notre rapport à l'information et donc à la démocratie. Et l'on évoque une idée importante aujourd'hui d'intelligence artificielle, ce qu'elle fait au capitalisme et ce qu'elle fait à la démocratie. C'est une idée parce que France Culture célèbre les idées au travers de la Nuit des idées, organisée par les instituts français partout dans le monde, qui se terminera aujourd'hui de 18h20 à 22h par 5 battles d'idées qui seront organisées à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et pour évoquer les différentes manières dont l'intelligence artificielle influe sur la démocratie, nous sommes en duplex avec Marie Pelletier. Bonjour Marie Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chercheuse et enseignante à la Haute École Galilée de Bruxelles et vous avez notamment publié « L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée ». Je suis en compagnie d'Antonio Casilli, sociologue, qui publie, lui, « En attendant les robots », enquête sur le travail du clic. Et puisqu'il est question du grand débat qui a aujourd'hui deux plateformes. Alors, une plateforme gouvernementale sur laquelle, donc, c'est sur Internet, on peut glisser des propositions. Et puis maintenant, une autre plateforme qui, je crois, utilise d'ailleurs la même technologie, qui, elle, est au service des Gilets jaunes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Antonio Casilli?
Ça me rappelle un scénario qu'on a déjà vu en Italie, en particulier avec l'émergence du mouvement 5 étoiles, qui est actuellement au gouvernement et qui a il y a quelques années, justement, se proposait comme une force politique dans laquelle chaque voix comptait et chaque voix pouvait s'exprimer à travers une plateforme qu'aujourd'hui on appelle Rousseau et qu'à l'époque était la plateforme...
Rousseau, donc là, c'était un hommage à la France.
Oui, ouais, évidemment, évidemment. Enfin, plutôt à la Suisse, mais enfin, bref. Mais de l'autre côté... Et de l'autre côté, évidemment, il y avait aussi derrière une entreprise qu'on appelle Casaleggio Associé. Donc, c'est un monsieur qui était un entrepreneur d'Internet et qui a su monter une illusion de débat, à mon sens, dans la mesure où les commentaires sont collectés et par la suite, on ne sait pas exactement quel est le traitement qu'a en effet.
Et alors ça, justement, c'est très important, puisque en attendant les robots, votre livre, vous expliquez finalement que l'intelligence artificielle, qui fait la une souvent des magazines, c'est, comme on le dit en français, du bullshit, et qu'en réalité, ce terme ne désigne pas grand-chose. Alors, on a accusé Casaleggio d'avoir un algorithme extrêmement secret qui permettait de savoir ce que les électeurs pensaient. En réalité, vous pensez qu'il était composé de quoi, cet algorithme ?
Écoutez, derrière les algorithmes qui sont toujours présentés pour les investisseurs, se cachent des êtres humains. Quand je parle d'êtres humains, je ne parle pas d'un petit comité de sublime ou de data scientist, on ne fait pas du complotisme, mais justement, on fait de la sociologie du travail et on montre que derrière, il y a des petites mains. Des petites mains, c'est des personnes qui, d'une manière très humble et souvent très précaire du point de vue de leur rémunération, ça donne à un travail de nettoyage, d'amélioration de ces bases de données qui servent pour les traitements statistiques finalement. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire abstraction de l'intervention de opérateurs humains sur n'importe quel traitement automatique.
Votre point de vue, Marie Pelletier, vous qui vous êtes intéressée au complotisme, à la manière justement dont ces technologies de l'information, algorithmes plus ou moins intelligents, avaient favorisé, diffusé ou pas d'ailleurs, des thèses qui sont des thèses complotistes et donc modifié notre rapport à la démocratie.
Oui, je suis pas du tout une spécialiste des algorithmes, mais je suis une spécialiste de l'observation de comment un type de discours s'est répandu ces dernières années sur les réseaux sociaux en particulier, mais même en amont des réseaux sociaux sur le web, et comment il y a eu depuis une petite vingtaine d'années une véritable offensive idéologique pour proposer, on pourrait dire, un contre-récit à ce qui est perçu comme le récit officiel. Récit officiel qui serait porté par les médias et les politiques. Ce contre-récit, il s'est diffusé à partir plus ou moins de l'entrée dans les années 2000 et il a gagné de plus en plus de terrain. Alors, certainement qu'il y a des facteurs techniques qui ont favorisé cette propagation. Mais ce qui m'intéresse surtout dans mon travail, et je voudrais faire une toute petite parenthèse parce que vous n'avez pas citer mon ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle Obsession et qui est édité aux éditions Inculte. Mon travail, c'est surtout de regarder sur quelles obsessions précisément ce type de discours vient appuyer. C'est-à-dire que c'est un discours qui est venu identifier des obsessions très contemporaines, dans le débat public européen notamment, et qui s'en est servi pour finalement proposer un récit de propagande qui aujourd'hui est en train, je ne vais pas dire de prendre le pouvoir, mais qui est en passe, en tout cas, de devenir en quelque sorte majoritaire au sein du débat public.
Et alors, quelles sont ces obsessions, selon vous, Marie Pelletier ?
Alors, il y a eu deux grandes lignes obsessionnelles, on pourrait dire, ou deux grandes lignes narratives qui ont structuré le débat public ces dernières années et qui ont trouvé écho sur le net. Alors, il y a à la fois ce que j'ai appelé la ligne civilisationnelle. Le 11 septembre 2001, c'est aussi toute l'ère de... disons de la remise en branle du schéma civilisation barbarie. Nous sommes la civilisation, nous sommes les lumières, nous faisons face aux barbares. Et cette ligne civilisationnelle a notamment pris pour obsession la question de l'islam. Et ça a été une obsession qui nous a énormément structuré ces dernières années et autour desquelles des acteurs idéologiques se sont structurés eux aussi. Et puis la deuxième ligne narrative qu'on voit vraiment triomphante actuellement, c'est la ligne narrative anti-système. C'est-à-dire, c'est toute celle qui s'est arrimée au vieil imaginaire à la fois anti-impérialiste, anti-USA plus particulièrement, et avec une posture très critique à l'égard à la fois de l'Occident évident, mais aussi avec un glissement sémantique qui a été de plus en plus une critique à l'égard du système démocratique, perçu comme en quelque sorte une perpétuation du joug occidental multiséculaire.
Et alors, on vous suit et si on considère qu'il y a donc effectivement deux obsessions, alors une obsession civilisationnelle qui en réalité recouvre une obsession à l'encontre de l'islam et une autre obsession qui, elle, est dirigée contre le système ou une position anti-système qui, d'ailleurs, peut là aussi recouvrir différentes formes. Est-ce que, d'après vous, Marie Pelletier, ces deux obsessions ont été portées par les technologies ? Est-ce qu'elles existeraient, ces deux obsessions, sans Internet, sans Facebook, sans Twitter ?
Alors c'est toujours évidemment difficile de voir un peu où est l'œuf, où est la poule. Je pense que ça nourrit en tout cas les obsessions. Et aujourd'hui, on le voit qu'elles se mettent en branle essentiellement à travers le net et à travers notamment deux formats qui ont privilégié, on va dire, un système de pensée très binaire et une structuration très polarisée du débat public. Ces deux formats sont à la fois le format vidéo en fait, notamment les sphères conspirationnistes ont utilisé dès le début des années 2000 le format vidéo pour répondre à un discours très unidirectionnel. Et puis aussi le format image, de manière plus globale. Quand je dis format image, c'est notamment ces images légendées qui se partagent très facilement sur les réseaux sociaux et qui très souvent donnent une espèce d'explication clé en main de problèmes complexes. Et ça a contribué énormément à une espèce de simplification de la pensée, d'une part, et d'autre part, à la désignation aussi de cible. Je pense que ça, c'est très important. C'est pas, par exemple, on parle beaucoup de la haine des médias pour le moment. Ça a été construit progressivement. La désignation des journalistes comme une cible, ça fait plus de 15 ans qu'elle se répand à travers certains formats sur le web notamment. Alors, de là à dire que c'est le web le responsable, je ne pense pas. Je pense que les discours de propagande, de désinformation, cette vieille haine idéologique, d'ailleurs par ailleurs, est très ancienne. Le discours anti-système est un discours qui a une longue histoire, mais effectivement, le web a été un vecteur. Et surtout, j'ai envie de dire, l'intelligence, hélas, de certains acteurs de propagande, ici je parle notamment des acteurs reliés à l'extrême droite, reliés au régime autoritaire, etc., ont compris, malheureusement, j'ai le sentiment qu'ils ont compris bien avant les démocraties le terrain de jeu que représentait le web. Donc ils ont eu un temps d'avance. Et j'ai l'impression maintenant que médias et politiques ici courent un petit peu après ça.
Votre point de vue, Antonio Casilli, parce que alors, vous vous êtes intéressé dans votre travail, dans votre livre En attendant les robots, à la manière dont on a pu industrialiser ces techniques de propagande avec là aussi un travail précaire, peu rémunéré, ce qu'on appelle les fermes à clics. De quoi s'agit-il et en quoi elles influent aujourd'hui sur la démocratie ?
Ben, les fermes à clics sont des structures, c'est-à-dire elles rassemblent parfois à des garages, parfois à des commerces, parfois même à des usines qui ont été réaffectées, transformées dans des structures dans lesquelles il y a énormément de postes, de PC ou des milliers de smartphones sur lesquels des ouvriers du clic, en passant d'un smartphone à l'autre, font, que sais-je, remonter dans le classement un certain contenu. Ça peut être une vidéo, pas forcément complotiste. Parfois, il y a tout simplement des marques tout à fait légitimes ou des hommes politiques tout à fait reconnus qui ont recours à ce type de structure. Donc parfois des fermes à clics, on en a même dans les foyers de certains particuliers, parce qu'on peut se connecter avec une tablette, avec un smartphone ou avec son propre ordinateur à une plateforme et, encore une fois, voter par exemple, en étant payé, mais attention, micro-payé, payé à la pièce, payé très très peu. Au Pakistan, on a vu par exemple certaines fermes à clics qui payaient 0,0006 dollars pour faire des likes, des faux likes sur Facebook. Et en l'occurrence, et c'est presque ironique, on a aussi pu remarquer que le candidat Trump, donc dans les élections présidentielles américaines de 2016, a acheté des clics, des faux clics, figurez-vous, au Mexique. Ce qui est complètement ironique, vu les énormités qu'il débite sur le Mexique.
Et là aussi, c'est quelque chose d'assez paradoxal, Antonio Casilli, parce que finalement, on décrit des mécanismes qui relèvent quasiment de la magie noire, avec des sociétés aux noms fleuris, comme Cambridge Analytica, qui pirait, qui aurait la possibilité de lire dans le cerveau des électeurs et de les manipuler, alors qu'en réalité, on a tout simplement, encore une fois, des ouvriers très mal payés qui vont donner une visibilité à certains messages. C'est beaucoup moins mystérieux, beaucoup moins magique.
Décidément, moins mystérieux. Et si on pense à Cambridge Analytica, on a pointé du doigt la responsabilité de Facebook, on a oublié de souligner la responsabilité d'une autre grande plateforme, Amazon, et en particulier Amazon Mechanical Turk. Parce que figurez-vous que la première base de données, le premier noyau de personnes qui ont fourni des données pour Cambridge Analytica ont été recrutées et payées un peu moins qu'un dollar pour faire leur petit formulaire en ligne et télécharger une application sur Amazon Mechanical Turk, donc la plateforme de micro-travail qu'on a citée tout à l'heure.
Et on voit Marie Pelletier au travers donc de ces technologies qui ne sont même plus d'ailleurs tellement des technologies, puisque notre monde est aujourd'hui un monde qui est incompréhensible sans Internet et sans la manière dont les informations nous arrivent. Dans ce monde-là, le complotisme est devenu une sorte de biais, un biais naturel qui paraît extrêmement évident pour beaucoup d'individus. Et en revanche, ceux qui s'efforcent de lutter contre ce biais-là sont bien démunis.
Ah oui, on est dans une impasse actuellement de la lutte contre le complotisme à différents égards. Je pense d'abord parce qu'on a on a trop longtemps sous-estimé le terrain que ce discours prenait. On a très longtemps ridiculisé cette posture, ce qui à mon avis était une grave erreur. On a beaucoup ri du discours conspirationniste, fait passer ce discours pour un discours ridicule et disons bête pour parler, pour dire les choses simplement. Alors qu'en fait c'est un discours construit idéologiquement. C'est un choix politique, le complotisme. Ce n'est pas seulement de l'ordre de la croyance. Alors évidemment, cela repose sur des biais cognitifs, cela repose aussi sur un certain désir de réenchantement d'une réalité complexe. Mais il y a par ailleurs, et ça je pense que c'est vraiment l'analyse qui manque encore trop sur ces questions, il y a par ailleurs un vrai fond idéologique ancien. Le complotisme, en tout cas dans sa forme telle qu'il est structuré idéologiquement, aujourd'hui, date de la fin du XVIIIe siècle, plus ou moins si on prend nos pays, et quand même un discours qui est très intrinsèquement lié notamment à l'histoire de l'antisémitisme. Et donc, on ne peut pas faire fi de cette lecture politique, et c'est en ça aussi que je pense que là où on se sent démuni, c'est que on n'ose pas aller sur le terrain politique très souvent. On reste très souvent dans la lutte contre le complotisme, dans les questions d'une part technique, aussi dans un regard porté sur le fact-checking, qui sont des outils très intéressants, hein, et importants, je ne les dénigre pas du tout, mais je pense qu'on esquive un petit peu trop, à mon sens, les questions de fond. Et alors, pourquoi les gens adhèrent à ce type de raisonnement idéologique?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, on hésite à aller sur le terrain politique? Qu'est-ce que vous pourriez préconiser?
Je pense que il faut. Je veux pas me mettre en juge.
Si mais... vous deviez présenter ce terrain politique où on hésite à aller, qu'en diriez-vous, Marie Pelletier?
Ben, ce que j'en dirais, c'est qu'il y a un évitement de la question des lignes rouges et de la question éthique. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer ça. Le discours complotiste est un discours très régulièrement pro-régime autoritaire. On l'a vu notamment pour le cas du conflit syrien, la manière dont on a traité le conflit syrien et la manière dont les sphères conspirationnistes en ont parlé sur le web. C'est un discours qui a soutenu de manière éhontée Bachar el-Assad, par exemple, parce qu'il l'a présenté comme une victime d'un grand complot mondial et comme une victime des islamistes. Donc vous voyez, c'était pratique parce que ça surfait sur les deux lignes narratives dont je vous ai parlé, à la fois la ligne civilisationnelle et la ligne antisystème. Alors, là où justement je trouve qu'on n'ose pas vraiment y aller, c'est que très peu de gens ont combattu ce discours frontalement. Très peu de gens ont dit c'est scandaleux de non pas seulement de répandre des théories du complot, mais de défendre Bachar el-Assad qui est en train de tuer 500 000 Syriens. Et c'est ça, cette parole-là manque cruellement à mon sens. C'est-à-dire d'aussi se positionner sur un plan éthique sur ces questions. On le voit d'ailleurs avec tous les événements actuels, notamment en France autour des gilets jaunes, etc. La soif éthique, elle est vraiment prégnante dans le débat public. Il y a une très grande demande, une très grande exigence citoyenne par rapport à une transparence, par rapport à, quelque part, une demande de balises éthiques et politiques qui ne sont pas claires pour le moment. Et je pense que c'est vraiment ça, ces dernières années, c'est vraiment de cela plutôt dont nous avons
qui a fait effectivement la différence. Mais alors, si on s'en tient au complotisme, Marie Pelletier, je citais tout à l'heure les propos de Carlos Ghosn, ancien dirigeant de Renault-Nissan, il est actuellement détenu au Japon et il dit qu'il est victime d'un complot. Alors évidemment, on ne connaît pas le fond de l'affaire, peut-être est-il victime d'un complot, parce qu'il y a des complots dans l'histoire, on le sait, mais il rejoint une longue cohorte, je pourrais vous faire une longue liste, en France, on avait Jérôme Cahuzac, qui lui apparemment n'a pas été victime d'un complot. Bref, une longue liste de dirigeants qui ont invoqué le complotisme, autrement dit qui se sont montrés complotistes, alors pour des raisons qu'on comprend bien hein, dans le cas de Jérôme Cahuzac, et qui du coup montrent que finalement le complotisme n'est pas l'apanage de certains, n'est pas forcément une position politique telle que vous la décrivez.
Alors, en fait, c'est effectivement aussi le problème de ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait d'avoir réduit le complotisme à quelque chose d'un petit peu ridicule et donc qui était seulement un problème de quelques personnes isolées. En fait, au-delà du fond idéologique que j'évoquais, c'est un imaginaire qui a pris de plus en plus d'espace. C'est-à-dire que c'est aussi à appréhender actuellement comme un imaginaire collectif qui imprègne désormais tous les acteurs du débat public à des degrés divers. Et donc, effectivement, il y a eu d'ailleurs un basculement assez important avec l'élection de Trump, évidemment, qui nous a montré à quel point maintenant le complotisme était une arme de victimisation, une arme politique, et qu'elle pouvait servir à la fois des intérêts particuliers ou des intérêts politiques plus globaux. Et donc, effectivement, maintenant, c'est de plus en plus difficile de faire la frontière entre ce qui serait complotiste et ce qui serait anti-complotiste ou pas complotiste. On peut prendre aussi des exemples des hommes politiques. Hein.
Oui.
Ils parlent pas tous forcément de complot, mais qui ne s'est pas dit victime d'une cabale à un moment donné ces derniers mois en France.
Effectivement,
c'est le même imaginaire.
Hein. Il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui ont abondé dans ce discours, qui est un discours complotiste. Votre point de vue, Antonio Casilli.
Ah, qu'il ne faut pas confondre le complot avec le complotisme. Le complot en tant qu'acte, c'est-à-dire de monter justement une cabale ou quelque chose contre quelqu'un, ça peut exister historiquement. En même temps, le complotisme, comme Marie Pelletier l'indique bien, est avant tout, au début plutôt, une sous-culture, c'est-à-dire une culture d'une niche de personnes qui par la suite a été récemment, et ça c'est quelque chose de plutôt inquiétant, comme on le dit en anglais, weaponisée, c'est-à-dire transformée en arme politique. Alors, de ce point de vue-là, la droite américaine, voire l'extrême droite américaine, a été extrêmement habile dans la récupération de tout un tas de arguments qui ont été par la suite mobilisés à des fins de gains électoraux.
Et puisqu'on en parlait tout à l'heure pour le mouvement 5 étoiles en Italie, est-ce que le mouvement 5 étoiles a surfé là aussi sur ce mouvement-là?
C'est complexe. Disons qu'il y a une partie de la base électorale du mouvement 5 étoiles qui semble être sensible à ces arguments complotistes, et on les accuse souvent de cela. En même temps, c'est plutôt un cas classique de populisme souverainiste et ethniciste qui se dégage dans le cas italien.
Deux livres à lire à ce sujet pour célébrer cette nuit des idées que l'on débute donc ici dans les matins au sujet de l'intelligence artificielle et de la manière dont les algorithmes influent sur la démocratie. Obsession dans les coulisses du récit complotiste, c'est votre livre publié aux éditions Inculte, Marie Pelletier. Puis l'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, ça c'est au petit matin. Et votre ouvrage, Antonio Casini, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, c'est aux éditions du Seuil. Et mes camarades s'installent pour clore l'émission, Aurélien Bélanger, et puis deux personnes qui viennent d'entrer également, Sandrine Trenner. Ça n'est pas pour les chiffres, parce que ça, vous en avez parlé récemment.
Mais arrêtez de nous transformer d'audience.
C'est
en
pour parler justement,
des chiffres.
Pour parler des idées. Et vous êtes venu en compagnie d'Anne Talino, qui représente ici l'Institut français. Et Anne Talino, vous allez nous exposer en compagnie de Sandrine Trenner cette nuit des idées qui s'ouvre aujourd'hui.
Oh ben je crois que c'est Anne Talino qui est donc effectivement directrice générale de l'Institut français qui est à l'initiative de cette nuit des idées qui est, c'est la quatrième
c'est la quatrième édition.
Voilà, qui va pouvoir nous en expliquer l'esprit et le thème de cette année.
Anne Talino.
Ben, l'esprit de la nuit des idées, ça a été la volonté de pouvoir encourager dans le monde, porter la libre circulation des idées. Donc nous avons voulu créer une sorte de fête de la musique des idées. Pour que cela puisse être possible, évidemment, l'Institut français, c'est notre mission, hein, la promotion de la culture française, du rayonnement, des idées dans le monde. Nous travaillons avec le réseau culturel et c'est le réseau culturel français à l'étranger qui a porté toutes ces nuits des idées dans le monde, que ce soit lui-même ou avec leurs partenaires. Nous connaissons évidemment au fil des années une montée en puissance de ces nuits des idées. Il y en avait 70 il y a 3 ans, il y en aura 220 cette année, dans les 5 continents et dans plus de 90 pays.
Et alors de quoi sera-t-il question, puisqu'on va évoquer le présent dans cette nuit des idées, Anne Talino?
Alors, chaque année, nous proposons une thématique. Et donc là, nous avions identifié un peu avant l'été face au présent. À ce moment-là, nous avions choisi ce thème parce que nous pensions que face au présent, on parlait beaucoup des enjeux environnementaux. Et au fil du temps, face au présent est devenu encore plus actuel et exigeant. Ça a été l'actualité sociale de l'automne, ça a été l'actualité de politique internationale. Mmh. Et pour nous, aujourd'hui, face au présent, c'est à la fois la perception de ce qu'est notre moment présent. Comment pouvons-nous y faire face avec lucidité? Et donc, ça permet à l'ensemble des partenaires dans le monde qui peuvent être des musées, qui peuvent être des discothèques parfois, des bibliothèques,
ça, des discothèques
comme à San Francisco.
Ça c'est, intéressant,
c'est à Johannesburg. Ah, et en fait, on y parlera de l'égalité homme-femme. Et ça permet de décliner les enjeux qui paraissent les plus prégnants pour le présent. Je parlais de San Francisco, il y a 15 000 inscrits pour venir débattre à la bibliothèque, oui, de San Francisco sur des enjeux climatiques.
D'autres lieux avec d'autres débats, Anne Talino, si vous deviez nous présenter d'autres places dans le monde où cette nuit des idées sera célébrée.
Alors, des lieux, il y en a beaucoup. Donc, si on prend, par exemple, les grands thèmes à l'intérieur de Face au Présent, on voit donc les enjeux environnementaux. Ça commencera par la nuit de l'eau à Tokyo, qui se déclinera ou qui fera face à la nuit du littoral à Paimpol, puisque la nuit des idées, c'est dans le monde, mais il y en a aussi 60 en France, dont la moitié en région. Mais par exemple, sur les enjeux environnementaux, il y a zéro déchet à Moscou. Et une autre thématique très importante, c'est l'Europe. Évidemment, les enjeux européens et dans la plupart des grands pays d'Europe, il y aura des débats sur l'Europe.
Sandrine, France Culture est partenaire de cette nuit des idées. Comment ça va se dérouler? Il va y avoir deux masterclass en public des événements.
Ben, c'est-à-dire que la nuit des idées, c'est effectivement également à la radio et pour nos auditrices, nos auditeurs, nos internautes. Ça a commencé depuis lundi dans Matière à penser, où philosophes, historiens, à 22h15, s'interrogent sur ce que c'est que d'être un historien face au présent. Qu'est-ce que c'est que d'être un philosophe face au présent ? On a entendu Patrick Boucheron, on a entendu Frédéric Worms, Antoine Garapon sur ce sujet-là. La Fabrique de l'Histoire, cette semaine, se demande comment est-ce qu'on enseigne dans le présent ? Qu'est-ce que c'est qu'enseigner dans son temps. Et puis aujourd'hui, bah depuis ce matin, avec vos invités, Guillaume, et jusqu'à ce soir, nous recevons deux grandes figures de la pensée à la grande table. Olivia Gesbert recevra le professeur d'Escola du Collège de France, qui ouvrira ce soir au Quai d'Orsay cette nuit des idées officiellement. Et puis je donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont à Paris à partir de 18h20. Olivia Gesbert et Hervé Gardette les accueillent pour cinq débats, dont le premier est très intéressant pour vous, Guillaume Erner. Vous devriez m'écouter. Le premier, c'est pourquoi faire encore des enfants ? C'est intéressant, non ? Dans ce monde où, face au présent, on se pose quand même un certain nombre de questions. Donc, c'est de 18h20 à 20h05.
Des informations particulières me concernant à ce sujet.
Je sais pas. 18h20 à 20h. Et puis, à 20h15, Caroline Brouet mènera une masterclass avec Pierre-Rosan Vallon. Et à 21h15, ce sera Perrine Kervran avec Mona Ozouf. Donc, jusqu'à 22h15, 22h30. Ce soir, rejoignez-nous au site Tolbiac de la BNF. Et je voudrais mentionner que, par ailleurs, la BNF s'intéresse aux revues et à 18h, de 18h à 20h30, là c'est au site Richelieu, Laurence Angel ouvrira une séquence de la BNF consacrée à la revue Esprit. Donc rendez-vous à la BNF partout.
Tout est à trouver sur le site. Un dernier mot, Anne Talino.
Juste un dernier mot pour souligner que cette nuit, il y aura environ 1000 intervenants, donc répartis sur ces 228 idées dans le monde, dont une grande partie d'intervenants français et 200 000 personnes qui viendront les écouter.